Megan. Jeudi 13 juin 2013. Matin. Je n'arrive pas à dormir avec cette chaleur. Je sens des insectes invisibles courir sur ma peau. J'ai une rougeur sur la poitrine. Je ne parviens pas à bien m'installer. Et Scott semble irradié de la chaleur. J'ai l'impression d'être allongée près d'un feu. J'essaye de m'éloigner le plus possible, mais ça ne suffit pas. Même à l'extrémité du lit, les draps repoussés. C'est insupportable. J'ai hésité à aller me coucher sur le futon dans la chambre d'amis. Mais il déteste ça. Quand il se réveille et que je ne suis pas là, on finit toujours par se disputer pour une chose ou une autre. Le plus souvent, c'est à propos de ce qu'on pourrait faire d'autre de cette chambre d'amis. Ou de la personne à laquelle je pensais pendant que j'étais là, toute seule. Parfois, j'ai envie de lui hurler. « Mais laisse-moi partir ! Laisse-moi partir ! Laisse-moi respirer !» Alors je n'arrive pas à dormir. Et je lui en veux. J'ai l'impression que la dispute a déjà commencé, même si elle n'a lieu que dans mes pensées. Et dans ma tête, les idées tournent et tournent et tournent encore. J'ai l'impression d'étouffer. Est-ce que cette maison a toujours été aussi minuscule? Et ma vie a-t-elle toujours été si minable? Est-ce que c'est ça dont je rêvais? Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois j'allais mieux. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à réfléchir, à dormir, à dessiner. Et l'envie de m'échapper devient insurmontable. La nuit, allongée là, réveillée, j'entends cette voix dans ma tête qui me répète sans relâche un murmure. Disparaît. Quand je ferme les yeux, je vois surgir des images de mes vies passées et futures, de tout ce que je rêvais, des choses que j'ai eues et que j'ai jetées. Si je n'arrive pas à m'installer confortablement, c'est que, partout où je regarde, je ne trouve qu'un mur. La galerie fermée, les maisons de cette rue, les velléités d'amitié envahissantes de ces femmes ennuyeuses de mon cours de pilates, la voie ferrée au bout du jardin, avec ces trains qui emmènent constamment des gens ailleurs et qui me rappellent une douzaine de fois par jour que moi, je ne bouge pas. J'ai l'impression de devenir folle. Quand je pense qu'il y a à peine quelques mois, j'allais mieux. J'étais en train d'aller mieux. J'allais bien. Je dormais. Je ne vivais pas dans la crainte des cauchemars. J'arrivais à respirer. Oui, j'avais quand même envie de m'enfuir. Parfois. Mais pas tous les jours. Parler à Kamal m'aidait. Je ne peux pas prétendre le contraire. J'aimais ça. Je l'aimais bien, lui. Il me rendait plus heureuse. Et maintenant, tout cela me semble terriblement inachevé. Je n'ai pas pu aller au bout. Et c'est ma faute. Je le sais parce que j'ai agi bêtement comme une gamine, parce que je n'ai pas apprécié qu'on me dise non. Il faudrait que j'apprenne à perdre. J'en suis gênée maintenant. La honte me monte aux joues dès que j'y repense. Je ne veux pas que ce soit ça, son dernier souvenir de moi. Je veux qu'il me revoie et qu'il voit que je suis mieux que ça. Et je suis sûre que, si j'allais le voir, il m'apporterait son aide. Il est comme ça. Il faut que j'arrive au bout de mon histoire. Il faut que je la raconte à quelqu'un, juste une fois. Dire les mots à voix haute. Si ça ne sort pas de moi, ça finira par me dévorer de l'intérieur. Le vide en moi, celui qu'ils ont laissé, continuera de grandir et grandir encore, jusqu'à me consumer entièrement. Je vais devoir ravaler ma fierté et ma honte, et aller le voir. Il faudra bien qu'il m'écoute. Je ferai tout pour qu'il m'écoute. Soir. Scott pense que je suis au cinéma avec Tara. Je suis devant la porte de l'appartement de Kamal, depuis un quart d'heure, à me préparer mentalement à frapper. J'ai tellement peur de la façon dont il va me regarder après ce qui s'est passé la dernière fois. Je vais devoir lui montrer que je suis désolée Alors je me suis habillée en conséquence, très simplement. Un jean et un t-shirt. Et presque pas de maquillage. Je ne suis pas là pour le séduire. Il faut qu'il me croie. Je sens mon cœur s'emballer tandis que je m'approche de sa porte pour sonner. Personne ne vient. Il y a de la lumière à l'intérieur, mais personne ne vient. Peut-être qu'il m'a vu rôder dehors. Peut-être qu'il est à l'étage et qu'il espère que, s'il m'ignore, je finirai par partir. Mais il a tort. Il ne sait pas la détermination dont je peux faire preuve. Une fois que j'ai décidé quelque chose, je peux être redoutable. Je sonne une nouvelle fois, puis une troisième. Et enfin, j'entends des pas dans l'escalier et la porte s'ouvre. Il porte un pantalon de jogging et un t-shirt blanc. Il est pieds nus, les cheveux humides et le visage rougi. Megan ? Il est surpris, mais pas en colère. C'est un bon début. Vous allez bien ? Tout va bien ? Je suis désolée, dis-je. Et il s'écarte pour me laisser entrer. Une vague de gratitude m'envahit, si intense qu'on pourrait la prendre pour de l'amour. Il me conduit dans la cuisine. Elle n'est pas rangée. Il y a de la vaisselle sale, empilée sur le plan de travail et dans l'évier. Des cartons de nourriture à emporter vides qui débordent de la poubelle. Je me demande s'il est dépressif. Je reste sur le pas de la porte. Il s'appuie sur le plan de travail face à moi, les bras croisés sur la poitrine. « Que puis-je faire pour vous ?» demande-t-il. Son visage arbore une expression parfaitement neutre. C'est l'expression du psychologue. Ça me donne envie de le pincer, juste pour le faire sourire. « Je voulais vous dire... » Je commence, puis je m'arrête. Je suis incapable d'aller ainsi droit au but. J'ai besoin d'un préambule. Alors, je change de tactique. Je voulais m'excuser, dis-je, pour ce qui s'est passé la dernière fois. Ce n'est pas grave, dit-il. Ne vous en faites pas. Si vous désirez parler à quelqu'un, je peux vous recommander un autre médecin. Mais je ne peux plus, s'il vous plaît, Kamal. Megan, je ne peux plus être votre psychologue. Je sais, je le sais. Mais je ne peux pas recommencer avec quelqu'un d'autre. Je n'y arriverai pas. Nous avons tant avancé, nous étions si près du but. Il faut que je vous raconte la fin, juste une fois. Ensuite, je disparaîtrai, promis, et je ne vous embêterai plus jamais. Il incline la tête de côté. Il ne me croit pas, ça se voit. Il pense que s'il me redonne une chance aujourd'hui, il ne pourra plus jamais se débarrasser de moi. Laissez-moi vous raconter, je vous en prie. Ça ne durera pas, mais j'ai juste besoin qu'on m'écoute. Et votre mari, suggère-t-il, mais je secoue la tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire, pas après tout ce temps. Il ne serait plus capable de me voir telle que je suis. Je serais une toute autre personne à ses yeux, il ne saurait pas comment me pardonner. Je vous en prie, Kamal. Si je ne recrache pas ce poison, je crois que je ne dormirai plus jamais. Je vous le demande, comme à un ami, pas comme à un médecin. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ses épaules s'affaissent légèrement tandis qu'il se détourne. Et je songe que ça y est, c'est terminé. Mon cœur se serre. Puis, il ouvre un placard et en sort deux gros verres. Comme un ami alors. Un peu de vin ? Je le suis dans le salon. Il a la même apparence négligée que la cuisine, faiblement éclairée par quelques lampes. Nous nous asseyons chacun d'un côté d'une table en verre, recouverte de hautes piles de papier, magazines et menus de plats à emporter. J'agrippe mon verre entre mes mains. Je prends une gorgée. C'est un vin rouge, mais il est froid, poussiéreux. J'avale, puis je prends une autre gorgée. Il attend que je commence. Mais c'est difficile, encore plus difficile que je ne le croyais. J'ai gardé ce secret si longtemps, une décennie, plus d'un tiers de ma vie. Ce n'est pas si simple de le laisser s'évader maintenant. Mais je sais qu'il faut que je parle maintenant. Sinon, je n'aurai peut-être jamais le courage de dire ces mots à voix haute. Je risque même de les perdre. Ils pourraient se coincer dans ma gorge et m'étouffer dans mon sommeil. Après avoir quitté Ipswich, je me suis installée avec Mac dans son cottage à la sortie de Holkham, au bout du chemin. Je vous l'avais dit, ça, non ? C'était un endroit très isolé. Le voisin le plus proche était à 3 ou 4 kilomètres. Et la boutique la plus proche à encore 3 kilomètres de là. Au début, on a beaucoup fait la fête. Il y avait toujours des tas de gens qui squattaient notre salon ou qui dormaient dans le hamac dehors l'été. Mais on en a eu marre au bout d'un moment et Mac a fini par s'embrouiller avec tout le monde. Alors les gens ont arrêté de venir et on s'est retrouvés juste tous les deux. Des journées entières passaient sans qu'on voie personne. On faisait nos courses au magasin de la station-service. C'est bizarre quand j'y repense, mais je crois que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après tout le reste, après Ipswich et tous ces hommes, les choses que j'avais faites. Ça me plaisait de n'être que Mac et moi, avec la voie ferrée désaffectée, l'herbe, les dunes et la mer, ces vagues grises et impétueuses. Kamal penche la tête sur le côté avec un demi-sourire. Je sens mon estomac se retourner. Ça avait l'air agréable, mais vous ne pensez pas que vous idéalisez cet endroit. Les vagues grises et impétueuses. Laissez tomber, dis-je en balayant sa question d'un revers de main. Et puis non, je n'idéalise pas. Vous êtes déjà allé dans le nord du Norfolk. Ce n'est pas l'Adriatique. C'est une mer impétueuse et terriblement grise. Il lève les mains en souriant. D'accord. Je me sens instantanément mieux et la tension quitte ma nuque et mes épaules. Je prends une nouvelle gorgée de vin. Il me semble moins amer à présent. J'étais heureuse avec Mac. Je sais que ça n'a pas l'air du genre d'endroit qui me plairait, mais là, après la mort de Ben et tout ce qui s'est ensuivi, ça l'était. Mac m'a sauvée. Il m'a hébergée, il m'a aimée, il m'a protégée. Et il n'était pas ennuyeux. Et puis, pour être tout à fait honnête, on prenait beaucoup de drogue. Et il faut le vouloir pour s'ennuyer quand on est défoncé en permanence. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Kamal acquiesce. Je comprends, mais je ne suis pas sûre que c'ait été un bonheur très authentique, dit-il. Le genre de bonheur qui peut durer, qui vous épaule véritablement. Je ris. J'avais 17 ans. J'étais avec un homme qui me grisait et qui m'adorait. Je m'étais enfuie de chez mes parents, de la maison où tout, absolument tout, me rappelait mon frère mort. Je n'avais pas besoin que ça dure, ni que ça m'épaule. J'en avais besoin à ce moment-là, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me semble que la pièce s'assombrit soudain. Nous y voilà, au passage que je ne raconte jamais. Je suis tombée enceinte. Il hoche la tête et attend que je continue. Une partie de moi a envie qu'il me pose des questions. Mais non, il se contente d'attendre. L'atmosphère s'assombrit encore. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard pour m'en débarrasser, me débarrasser d'elle. C'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas été si bête, si inconsciente. C'est qu'elle n'était pas désirée ni par lui, ni par moi. Kamal se lève, va à la cuisine et revient avec un rouleau d'essuie-tout pour que je sèche mes larmes. Il me le tend et retourne s'asseoir. Il me faut un moment avant de pouvoir reprendre. Kamal reste assis, comme pendant nos rendez-vous, les yeux dans les miens, les mains repliées sur ses genoux, patient, immobile. Ça doit demander un self-control incroyable, cette immobilité, cette passivité. Ça doit être épuisant. J'ai les jambes tremblantes, le genou qui tressaute comme s'il était commandé par la ficelle d'un marionnettiste. Je me lève pour l'arrêter. Je marche jusqu'à la porte de la cuisine, puis je reviens. Je me gratte nerveusement la paume des mains. On a été tellement bêtes, tous les deux, lui dis-je enfin. On n'a même pas assumé ce qui se passait. On a continué comme si de rien n'était. Je ne suis pas allée voir le médecin, je n'ai pas fait plus attention à ce que je mangeais, je n'ai pas pris de vitamines prénatales, je n'ai rien fait de ce qu'on est censé faire dans ces cas-là. On a continué notre petite vie. faisais comme si rien n'avait changé. J'étais de plus en plus grosse, de plus en plus lente, de plus en plus fatiguée. On était tous les deux irritables et on passait notre temps à s'engueuler. Mais rien n'a vraiment changé avant qu'elle arrive. Il me laisse pleurer. Pendant ce temps, il vient s'asseoir sur la chaise à côté de moi et ses genoux frôlent ma cuisse. Il se penche en avant. Il ne me touche pas, mais nos corps sont si proches que je sens son odeur. Une odeur propre dans cette pièce sale. Une odeur nette, âpre. Ma voix se transforme en murmure. Ça me dérange de prononcer ces mots à voix haute. J'ai accouché à la maison. C'était idiot, mais j'avais un truc contre les hôpitaux à cette époque. Parce que la dernière fois que j'avais été dans un hôpital, c'était quand Ben était mort. Et puis, je n'étais allée faire aucune échographie. J'avais fumé, un peu bu. Je n'avais pas envie qu'on me fasse la leçon. Je ne m'en sentais pas capable. Je crois que, jusqu'au dernier moment, ça ne m'a jamais paru très réel. Comme si je ne pensais pas vraiment que ça allait arriver. Mac avait une amie infirmière qui avait suivi une formation d'infirmière, quelque chose comme ça. Elle est venue et ça s'est bien passé. Ce n'était pas si mal. Je veux dire, c'était horrible, évidemment. Douloureux et terrifiant, mais ensuite, elle était là, toute petite. Je ne me souviens pas exactement du poids qu'elle faisait. C'est terrible, non? Kamal ne dit rien. Il ne bouge pas. Elle était adorable. Elle avait des yeux noirs et des cheveux blonds. Elle ne pleurait pas beaucoup. Et elle a fait ses nuits dès le début. C'était un gentil bébé, une gentille fille. Là, je dois m'arrêter un instant. Je m'attendais à ce que tout soit très dur, mais pas du tout. Il fait encore plus sombre, j'en suis sûre. Mais quand je relève les yeux, Kamal est là. Il me regarde, l'air compatissant. Il m'écoute. Il veut que je lui raconte. J'ai la gorge sèche, alors je prends une autre gorgée de vin. Ça me fait mal d'avaler. Nous l'avons appelée Elisabeth. Libby. C'est tellement étrange de prononcer son nom à voix haute, après tout ce temps. Libby, je répète. J'aime la sensation de son nom dans ma bouche. J'ai envie de le répéter encore et encore. Enfin, Kamal tend une main et prend la mienne, son pouce contre mon poignet, sur mon pouls. Un jour, on s'est disputé, Mac et moi. Je ne me souviens pas à propos de quoi. Ça arrivait de temps à autre, de petites disputes qui explosaient en grosses engueulades. Rien de violent, rien de ce genre. Mais on se hurlait dessus. Et je menaçais de le quitter, ou alors c'était lui qui sortait. Et je ne le voyais pas pendant quelques jours. C'était la première fois que ça arrivait depuis sa naissance. La première fois qu'il partait et me laissait toute seule avec la petite. Elle avait à peine quelques mois. Le toit fuyait. Je me souviens du bruit de l'eau qui gouttait dans des seaux, dans la cuisine. Il faisait un froid glacial, avec le vent qui chassait violemment les vagues sur la mer. Il pleuvait depuis des jours. J'ai allumé un feu dans le salon, mais il n'arrêtait pas de s'éteindre. J'étais fatiguée. J'avais un peu bu pour me réchauffer, mais ça ne marchait pas. Alors, j'ai décidé de prendre un bain. J'ai emmené Libby avec moi, je l'ai posée sur ma poitrine, la tête juste sous mon menton. La pièce s'assombrit plus encore, et je me retrouve là-bas, allongée dans l'eau, son petit corps appuyé sur le mien, la flamme d'une bougie vacillant juste derrière moi. J'entends la cire couler, son odeur dans mon nez, et un courant d'air froid vient souffler sur ma nuque et mes épaules. Je me sens lourde. Mon corps s'enfonce dans la chaleur de l'eau. Je suis épuisée. Et soudain, la bougie est éteinte. Et j'ai froid. Très froid. J'ai les dents qui claquent dans mon crâne. Le corps tout entier qui tremble. La maison me semble trembler aussi, le vent hurle et s'engouffre sous les tuiles du toit. Je me suis endormie, dis-je. Puis, je ne peux plus rien dire d'autre. Je la sens encore. Elle n'est plus sur ma poitrine. Son corps est coincé entre mon bras et le bord de la baignoire. Son visage dans l'eau. Nous étions si froides, toutes les deux. Pendant un moment, aucun de nous ne bouge. J'ose à peine le regarder. Mais quand j'essaye, il ne se détourne pas. Il ne prononce pas un mot. Il passe un bras sur mes épaules et m'attire à lui, mon visage contre son torse. J'inspire son odeur et j'attends de me sentir différente, plus légère, de me sentir mieux ou pire maintenant qu'une autre âme sur cette terre sait. Je suis soulagée, je crois, parce que sa réaction me prouve que j'ai bien fait. Il n'est pas en colère contre moi. Il ne pense pas que je suis un monstre. Je suis en sécurité, parfaitement en sécurité avec lui. Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi, dans ses bras, mais quand je reviens à moi, j'entends mon téléphone qui sonne. Je ne réponds pas, mais peu après, un bip me prévient de l'arrivée d'un texto. C'est Scott. Tu es où ? Et quelques secondes plus tard, le téléphone se remet à sonner. Cette fois, c'est Tara. Je me dépêtre des bras de Kamal et je réponds.
Megan, je ne sais pas ce que tu fabriques, mais il faut que tu appelles Scott. Il m'a déjà téléphoné 4 fois. Je lui ai dit que tu étais sortie nous racheter du vin, mais je pense qu'il ne m'a pas cru. Il dit que tu ne décroches pas ton portable.
Elle a l'air énervée, et je sais que je devrais la rassurer, mais je n'en ai pas l'énergie. D'accord, dis-je. Merci. Je le rappelle tout de suite.
Megan !
Mais je raccroche, avant d'entendre un mot de plus. Il est 10 heures passées. Je suis là depuis plus de 2 heures. Je coupe mon téléphone et me tourne vers Kamal. Je ne veux pas rentrer chez moi, dis-je. Il hoche la tête, mais ne me propose pas de rester. Au lieu de cela, il se lève et dit « Tu peux revenir si tu en as envie, une autre fois. » Je fais un pas vers lui, je referme le fossé entre nos deux corps. Je me dresse sur la pointe des pieds et j'embrasse ses lèvres. Il ne se dérobe pas.